Lors du festival Mimi sur l'île du Frioul, Robert Guédiguian, cinéaste, tournait quelques scènes de son prochain film. Il est venu à notre rencontre sur le plateau que nous avions réalisé pour cette occasion lors du festival Mimi. Et c'est donc cet entretien avec Robert Guédiguian que nous vous proposons désormais de réécouter. Bonsoir Robert.
Merci, bonsoir. Oui.
Vous êtes, c'est étonnant parce que vous êtes cinéaste et on est là sur un festival de musique. Et j'ai cru comprendre que vous étiez ici avec une équipe de tournage. Vous
c'est
étiez
vrai.
En train de réaliser une scène.
Oui, en fait, si vous voulez, c'est un festival que je connais bien, puis je connais bien le Frioul et l'hôpital de la Caroline, bien sûr, et nous avions, avec Serge Valetti, avec qui j'ai écrit ce film, imaginé que le film entier est un rêve, en fait, et on avait imaginé que dans le film, donc, le personnage principal, qui est joué par Ariane Ascaride, comme souvent, comme d'habitude, j'allais dire, et rêve, en fait, de chanter en public, dans cet hôpital, parce que sa mère déjà y avait chanté. Elle a eu un destin différent, plus, on va dire, plus conformiste. Hein. Et au fond, elle rêve d'être chanteuse. En fait. Et elle rêve de chanter la chanson que sa mère chantait, qui était le succès de sa mère, qui est en fait donc comme on fait son lit, on se couche, la chanson de l'opéra de Brecht et de Weill, la chanson qui se termine, Grandeur et décadence de la vie de Marconi. Voilà. Donc on s'est adressé tout de suite, dès qu'on a pensé à tourner dans ces conditions, c'est évidemment retourner vers Ferdinand Richard pour lui demander si on ne pouvait pas profiter, au sens étymologique du terme, du festival et faire chanter Ariane à la fin de chaque représentation, puisque nous on fait évidemment, comme toujours au cinéma, plusieurs plans. Donc tous les soirs, quasiment, on est là et Ariane à la fin chante cette chanson-là. Qu'on a fait adapter, ceci dit, on a fait une adaptation contemporaine et j'ai demandé, parce que ça me semble correspondre au rythme général du film, qu'on a fait adapter par Gotan Project.
Ah oui?
Oui.
Mais c'est-à-dire qu'Ariane va chanter en public?
Oui, devant le public du festival, auquel j'ai demandé, je demande chaque soir, on fait une intervention avec Ferdinand, on fait une intervention tous les soirs pour dire, bon écoutez, c'est à la fois un supplément et c'est à la fois une collaboration qu'on vous demande, ça se passe dans ces lumières-là, dans ce cadre-là, dans le cadre du festival. Ariane va chanter, derrière elle, effectivement, il y a une caméra, et d'ailleurs, le chante avec. Jean-Pierre Darroussin ne chante pas, il est dans cette affaire, c'est Jean-Pierre Darroussin qui joue le personnage, l'autre personnage, qui est dans l'opéra de Brecht, qui est condamné à mort, et qui est là. Avec une potence et effectivement une corde au cou pendant qu'elle lui chante cette chanson-là, qu'il devrait méditer, mais ça c'est le...
Et donc on entendra tout ce qu'on entend dans les tournages d'un film, action, moteur...
Non.
Non ?
Non, parce qu'effectivement on est quand même... On joue le jeu de la représentation, c'est-à-dire qu'on est plus discret, et donc en fait on lance évidemment des moteurs à voix basse entre nous, et sur un simple signe, en fait, la musique part, et c'est ce qui indique, en général, on dit allez-y ou on dit axio, et en fait, c'est le départ de la musique, une place précise pour Ariane, qui lance effectivement le démarrage, et les machines sont en marche, son et image, bien sûr.
Le film se nommera Le fil d'Ariane.
Oui, Au fil d'Ariane.
Au fil d'Ariane. Oui. En fait, Ariane va essayer de prendre ce fil pour remonter en fait jusqu'à sa mère pour peut-être aboutir
oui.
à ce rêve-là, c'est cette oui, signification-là.
Entre autres choses, on va s'apercevoir à la fin du film que dans le rêve, évidemment, figurait son mari, son fils, sa fille, ses amis, voisins, les gens les plus proches, son père, peut-être, enfin tous ces gens-là figuraient dans le film. Mais je précise que sur ce film-là, c'est juste que j'ai appelé ça une fantaisie. C'est-à-dire que c'est absolument pas un rêve, c'est pas un cauchemar du tout. C'est un rêve extrêmement gai et drôle, quoi. Hein. C'est pas bon. Donc c'est un rêve et c'est pas un cauchemar, oui.
Nicolas ?
Oui, moi j'ai une question peut-être un peu plus technique à la fois par rapport au fait qu'elle joue ce personnage. Est-ce que du coup elle chantera dans des conditions de direct ? Parce que j'imagine que si vous tournez tous les soirs, mais d'un autre côté, ça va être. Si vous tournez tous les soirs, vous n'allez pas faire couper, on la refait, etc. Vous faites
bien sûr.
Le morceau
bien sûr.
En entier.
Et déjà hier soir, on a fait tous les gros plans, effectivement, toute la nuit. En fait, on a tourné jusqu'à 4h du matin, on a fait des gros plans à public Donc c'est effectivement c'est un playback. On peut pas. En fait, il n'y a pas de technique qui permettrait. Il n'y a qu'un plan séquence qui permettrait une prise en direct. Mais si on veut découper, et je voulais découper, donc on est obligé de recourir au playback. Donc elle ne chante pas en direct. Mais c'est elle qui a enregistré la chanson, bien sûr. Et en fait, l'idée même m'est venue parce qu'elle a joué tout de suite en sortant du conservatoire de Paris, quand elle était donc il y a 30 ans, en fait. Elle a joué sous la direction de Marcel Bluval. Elle avait joué cette pièce-là et chanté cette chanson-là déjà donc il y a une trentaine d'années.
Robert Guédiguian, tout à l'heure, vous avez parlé d'une fidélité avec vos acteurs. Et quand on ouvre une page Wikipédia et qu'on regarde Robert Guédiguian, on voit cinéaste marqué, travaillé par le monde ouvrier. Est-ce que c'est toujours aussi une fidélité que vous avez à l'égard des ouvriers aujourd'hui ?
Oui, c'est-à-dire, vous savez... Tous les cinéastes qu'on appelle auteurs, en fait, le terme étant, bon, ne le définissons pas plus que ça, tous les cinéastes qui partent vraiment de leur biographie, en fait, pour en pensant que cette biographie va intéresser d'autres personnes, évidemment. Mais au fond, raconte effectivement tout ce que contient cette biographie. Ma biographie, effectivement, fait que je suis un fils d'ouvrier qui a travaillé donc sur les quais, et j'allais travailler avec mon père sur les quais à Marseille, etc., qui était électromécanicien. À réparation navale, et j'allais travailler avec lui. Je tournais encore sur les quais cet après-midi. C'est très rare que je fasse pas une séquence parce que ça fait partie, j'allais presque dire aujourd'hui, ce n'est pas qu'idéologique, ça fait partie de mon vocabulaire. Je veux dire, ma verticalité, c'est celle-là.
Mais alors
c'est mon langage. Il faut que je tourne des bateaux, des quais, des gens en train de travailler, y compris donc, de travailler manuellement. En fait, c'est bon. Ça fait partie de mon vocabulaire.
Et quel regard vous portez sur la transformation de la ville, justement, sur le port avec Euromed ?
Bon, je suis à la fois... Je suis pas très nostalgique, en fait. Donc, je trouve ça très beau. J'espère qu'effectivement, cela... J'espère qu'on parviendra à tenir quand même un double secteur. C'est-à-dire qu'il y a un secteur... pour aller vite, disons touristique, en fait, qui fonctionne, est probablement une bonne chose. En fait, ça crée du travail, hein, des emplois. Il faut travailler, il faut, comme disait Brecht, la bouffe d'abord, la morale ensuite. Hein, et pour rester sur Brecht, et j'espère qu'on maintiendra quand même un secteur de réparation, de savoir-faire ouvrier, de réparation navale, ce qui se passe un peu avec les yachts, hein, je veux dire, avec tout l'endroit, toutes les petites formes, la forme 6, là, tout ça, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, où on répare effectivement des yachts, un savoir-faire très pointu de classe ouvrière, en fait. Qu'on arrive à maintenir les deux secteurs me semble un objectif qui est possible aujourd'hui pour Marseille, qui pourrait effectivement faire qu'il y ait un petit peu moins de chômage dans cette ville.
On a beaucoup dit que l'aménagement du fort aux abords du Mucem allait chasser les pêcheurs, et puis lorsqu'on s'y promène, les pêcheurs sont toujours là.
Oui, mais c'est pour ça. Je crois que c'est bien que Marseille résiste de cette manière-là. Elle peut résister si les choses ne s'opposent pas, mais si les choses se juxtaposent. Donc si effectivement on continue à avoir des pêcheurs, on continue à avoir des ouvriers qui travaillent, qui font de la mécanique, qui sont très pointu et compétent. Mais par rapport, je conçois aussi qu'il faille évoluer. C'est la nature des choses que de se transformer. C'est la nature des choses que de disparaître aussi. Donc c'est pour ça que je dis que je suis pas nostalgique. Je regarde toujours devant, quoi. Et donc je suis plutôt optimiste pour Marseille aujourd'hui, plus que ce que je peux, par exemple, qu'il y a 20 ou 25 ans.
En ce moment, il y a le festival du FID, le FID Marseille. Oui. Radio Grenouille y est très présent, on y était hier, on y sera encore dimanche. Quel regard vous portez sur ce festival de cinéma ?
C'est très, 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 c'est très bien et très fort, ce festival. Vous savez, je suis producteur aussi, donc je n'ai jamais réalisé de documentaire, mais j'en produis beaucoup. Donc c'est un festival extrêmement important. Je continue là par contre à regretter que le Sunnyside ait disparu. Le Sunnyside, en fait, c'est-à-dire que le marché du film, qui se passait en même temps effectivement que le FID il y a quelques années, pour des réseaux, à mon avis pour de mauvaises raisons, ait été laissé à La Rochelle aujourd'hui. Je trouve que c'est très bien au cinéma, de fiction bien entendu, mais de documentaire aussi. Je trouve que c'est très bien. Le cinéma, c'est une industrie énorme. Je dis des choses très, très vite et très évidentes. Mais donc c'est très bien qu'il y ait toujours un marché, un festival en même temps. Je veux dire, la grande qualité de Cannes, par exemple, c'est ça. c'est un grand marché et un grand festival d'auteurs aussi. Donc qu'il n'y ait plus de marché, je le regrette un peu. Et le FID reste un festival très important.
Romain ?
Oui, en parlant d'art... d'artistes. En fait, ce FID de cette édition est placé sous l'égide, on va dire, de Pier Paolo Pasolini.
Oui.
C'est un cinéaste qui vous a inspiré
Plus qu'inspiré, c'est de mes meilleurs amis, j'allais dire. Alors, je ne l'ai jamais rencontré, bien entendu, mais c'est quelqu'un qui me... C'est un compagnon, ce que j'appelle un compagnon de route, c'est-à-dire... Il y a quelques personnes comme ça qui, dans ma formation intellectuelle, sont des gens auxquels j'aime à me poser la question de savoir ce qu'ils auraient pensé de telle ou telle chose, en fait. Brecht, j'essaie d'imaginer. Brecht et Pasolini, oui, tout à fait. Brecht qui évoque Pasolini dans Uccellini e Uccellacci, par exemple. Mais c'est vrai que je me dis, tiens, sur tel ou tel événement, sur tel ou tel film, sur telle ou telle réalité, qu'aurait pensé, qu'aurait écrit Pasolini ? Qu'est-ce qu'il aurait dit ? J'essaie de me mettre à sa place, quoi. Donc c'est vraiment des gens qui m'accompagnent depuis toujours... Et que je vénère par-dessus tout.
Et parmi les cinéastes contemporains, est-ce que le travail, par exemple, d'un cinéaste comme Ken Loach est un cinéaste
qui vous parle ? À l'évidence, oui. Mais Ken Loach, je le connais bien, par contre. On s'est rencontrés, on se parle, on a fait des interventions ensemble deux fois. Donc Ken Loach, évidemment, est quelqu'un que j'aime beaucoup.
Est-ce qu'on peut parler, malgré tout, à l'endroit de ce travail que vous faites, de là où vous portez, disons, votre regard, hein, et là où Canos porte son regard, de porter votre regard à l'endroit de survivance ? Car finalement, on dit aussi, et il est vrai, que ce qu'on appelle la classe ouvrière, non, n'a plus la puissance qu'elle avait, et que la culture ouvrière aussi, la culture au-delà même de la classe, hein, la culture ouvrière, eh bien, petit à petit, disparaît et qu'il semblerait un peu que votre cinéma se porte à l'endroit de survivance, de ce qui, peu à peu, disparaît.
Peut-être, c'est une question difficile. C'est une question qui appellerait des développements très très nombreux. C'est une question de philosophie un peu générale. L'art en général est ce qui résiste, à la mort, en fait. Mais donc à la mort des auteurs, à la mort de ceux dont les auteurs parlent, de ce qui constitue leur biographie. Donc c'est forcément, effectivement, je pense que l'art a toujours à voir avec la survivance. Il retarde le processus inéluctable de disparition du monde dans lequel nous sommes nés, dans lequel nous avons grandi, etc. Donc je crois que l'art, c'est toujours un phénomène de ce type-là. Enfin, beaucoup de gens écrivent là-dessus, Deleuze, Pasolini, Malraux.
Robert, peut-être une dernière question, cette fois-ci, par rapport au festival Mimi. Nous sommes dans un festival qui soigne la question du son. Nous ne sommes pas dans un festival de musique, conventionnelle. Comment vous traitez la musique et le son dans votre cinéma ?
Ah, c'est une... Oui, c'est vrai que c'est très... le son, en fait, je travaille beaucoup, on fait beaucoup de son direct, bien entendu, mais on travaille énormément les sons... les sons secondaires, c'est-à-dire les sons de figuration. C'est une chose qu'on travaille beaucoup sur tous les films. En général, à la fin des journées, on fait énormément de sons qui ne sont pas ce que j'appelle le direct, évidemment, c'est le dialogue, quoi. Voilà, c'est au cinéma, le premier son, c'est le texte droit, le plus intelligible possible, le plus pur possible pour pouvoir le mixer, bon, etc. Mais... On travaille beaucoup après tout ce qui se passe autour, quoi, ce que j'appelle donc la figuration. On fait chanter des figurants, on les fait applaudir, on les fait réagir d'une certaine manière, on les fait s'arrêter, etc. Pour pouvoir gérer tout ça ensuite et pouvoir travailler ces matières sonores-là, des plans différents, etc. Et ça, on le fait avec beaucoup d'attention, ça fait participer les gens au film d'ailleurs, beaucoup plus que... de la simple figuration, en fait. Souvent, les figurants travaillent plus avec nous au son qu'à l'image, en fait. À l'image, bon, il faut passer. Ouais. Puis après, là, on leur demande un effort, on leur demande une interprétation, on leur demande de jouer quelque chose. Donc, c'est une chose qu'on travaille beaucoup. Pour la musique, en fait, c'est plus particulier, mais là aussi, je ne veux pas être trop long, mais c'est vrai que pour la musique, moi, j'ai toujours eu j'ai toujours fait un travail sur de la musique existante, en fait, la plupart du temps. Sur de la musique existante et qui était très, très reconnaissable par le public. c'est-à-dire jamais sur de la musique qui était très pointue, très originale, très bon. Au contraire, mais après, bon, ça, ce qui ne veut pas dire que la musique originale ne m'intéresse pas, mais dans la manière dont je travaille en tout cas, le côté populaire, le côté politique de mes films passe par de la chanson qui met le spectateur en familiarité avec ce qu'il est en train de voir. Donc dans une commun. Espèce de connivence, dans quelque chose de commun. Voilà. Donc on reconnaît tout de suite la musique, que ça soit d'ailleurs dans du classique ou dans du contemporain, dans du blues, dans des choses comme ça. J'essaie d'utiliser le plus possible des tubes, en fait. Donc des musiques très très connues.
Robert Guédiguian, merci d'être venu sur le plateau de Radio Grenouille.
Merci à vous.
Merci Robert Guédiguian. C'était un entretien, un moment partagé avec Robert Guédiguian, cinéaste, venu nous rendre visite sur le plateau que nous avions réalisé lors du festival Mimi sur l'île du Frioul.